Axel Villard, vous nous emmenez aujourd'hui à la Une de la Science à l'intérieur du cerveau sur les voies de chemin de fer neuronal.
Oui, c'est bien oui, ça. C'est ça.
En raison d'un incendie aux abords des voies, l'Intercité partira avec un retard d'environ une heure.
Et dans les neurones comme sur les rails, lorsque les voies sont encombrées, la situation dégénère très vite. Une équipe française vient de découvrir un nouveau mécanisme, un encombrement dû à un excès de glutamate qui mène à la dégénérescence des neurones. Deux publications parues la semaine dernière et qui ouvrent de nouvelles pistes pour comprendre des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. On en discute avec vous, Magda Maghiera. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, post-doctorante pour le CNRS dans le laboratoire de Carsten Janke, à l'Institut Curie à Orsay, et vous êtes co-auteur de ce travail. Oui. Ce que nous, on a appelé les voies de transport dans le son, ce sont en réalité les axones, c'est une sous-partie des neurones. Quel est leur rôle dans le fonctionnement du cerveau?
Alors les axones sont une partie de neurones, donc les neurones étant les cellules dans le cerveau. Et donc c'est par les axones qui peuvent être très très longs, plusieurs centimètres, plusieurs mètres même chez certains organismes, que le signal entre les différents neurones vont se faire. Et donc ces signaux doivent, donc les neurones doivent communiquer, donc les signaux doivent passer d'un neurone à un autre pour que le cerveau fonctionne correctement.
Moi, il me semblait que l'information dans les neurones était plutôt un signal électrique. Là, on ne parle pas de la même information alors.
Donc, bien sûr, il y a les signaux électriques, mais il y a aussi un autre type de... Pour que ces signaux puissent passer d'un neurone à un autre, il faut amener les molécules qui vont être qui vont signaler entre les deux cellules. Et donc, ces molécules vont être amenées par un transport dans les neurones.
Vous appelez ces tubules des autoroutes de l'information dans le
neurone,
c'est ça?
Alors, ces chimicaux, ces molécules vont être amenées comme des cargos sur un train, par exemple. Et donc, les rails sur lesquels ça se passe sont des microtubules. Mm-hmm. Donc, les microtubules qui sont en effet des tubules qui remplissent l'axone des neurones et donc sur lesquels se passe ce transport.
Alors vous allez me dire, si je résume bien votre découverte maintenant, vous montrez que l'importance d'un bon entretien de ces routes, surtout l'effet néfaste de leur encombrement dans le neurone, c'est ça?
Donc c'est ça qu'on a trouvé. Donc ce qui est nouveau dans ce qu'on a trouvé, c'est que on montre pour la première fois que la modification de ces rails, mm-hmm. donc des microtubules, peut amener des neurones à dégénérer. Donc c'est une première en fait. Mm. Donc on a montré qu'en effet il y a une modification qui peut affecter ces microtubules qu'on appelle la polyglutamylation. Et quand les niveaux de cette polyglutamylation sont pas contrôlés, ça amène à des problèmes de transport justement sur les microtubules qui peuvent résulter dans la mort des neurones.
Axel parlait tout à l'heure d'un excès de glutamate justement dans sa présentation. Oui. C'est ça dont il s'agit, c'est ça qui vient perturber justement le bon
donc,
fonctionnement
en effet,
de cette
donc justement notre modification s'appelle la polyglutamylation parce que c'est en fait l'ajout des résidus glutamate sur les microtubules.
De quoi on parle d'ailleurs quand on parle de glutamate? Parce que moi je connais le glutamate dans la cuisine asiatique par exemple, mais c'est le même ou pas?
Chimiquement en fait c'est la même chose. Ouais. Mais donc là nous on est dans le cerveau et donc dans le cerveau on n'aura pas le glutamate que l'on consomme n'arrive pas jusque dans le cerveau. Donc ça n'a pas d'impact.
C'est celui que produit le cerveau lui-même
ou... Oui, tout à fait.
Alors Magda Maghiera, la découverte que vous avez obtenue, vous l'avez obtenue sur la souris. Quelle est la conséquence pour cet animal quand ses neurones sont trop encombrés par ce glutamate dont on parle?
Grâce au fait qu'on a découvert dans l'équipe les enzymes qui contrôlent le niveau de cette modification, la polyglutamylation, nous avons pu regarder dans les cellules, dans les souris, qu'est-ce qui se passe quand cette modification est déréglée. Et donc on a bien vu que quand la polyglutamylation était trop importante, il y avait certains neurones dans la souris mouraient.
Dégénérer, ça veut dire mourir alors pour le neurone.
Oui, c'est ça.
Et ce qui est vraiment très intéressant, parce qu'on va un peu plus loin dans les deux papiers, on a dit qu'il y avait deux publications, c'est que vous avez trouvé une corrélation, en tout cas un effet chez l'homme qui est semblable à ce que vous avez trouvé chez la souris, une pathologie qui existe et qui est expliquée de la même façon, c'est ça?
Oui. Alors en fait, pendant qu'on travaillait, on a été contacté par une équipe de généticiens qui ont trouvé une quinzaine d'enfants donc qui sont atteints d'une maladie neurodégénérative. Et après séquençage, il s'est trouvé que ces enfants-là, ils avaient également une mutation dans le même gène que les souris sur lesquelles on travaillait, et qu'ils avaient également une hyperglutamylation, donc un dérèglement de niveau de glutamate sur leurs microtubules.
Si on élargit un tout petit peu, qu'est-ce qui vous fait penser que Alzheimer ou Parkinson, on en parlait tout à l'heure, pourrait être causé par ce même type de mécanisme alors ?
Alors, il se peut que ça soit le cas. Donc, nous sommes en train d'essayer de vérifier cette hypothèse. Vu que la protéine qui est impliquée dans la genèse de la maladie d'Alzheimer et la protéine Tau est une protéine qui se lie aux microtubules, on peut bien imaginer que le fait de modifier changer la modification des microtubules pourrait changer la fixation de cette protéine Tau sur les microtubules et du coup provoquer l'accumulation de la protéine Tau.
Donc beaucoup d'espoir autour de cette découverte, c'est important effectivement. Oui. Guy Simonet, un commentaire, parce que vous connaissez bien le glutamate, il vous a accompagné pendant de nombreuses années dans vos recherches.
Oui, nous avons enseigné tous en faculté de médecine le syndrome du restaurant chinois. Vous parliez tout à l'heure de est-ce que c'est le même que celui qu'on met dans la cuisine chinoise. Oui, tout à fait. Et il y a certaines personnes qui ont une perméabilité de la barrière hématocéphalique et au lieu d'avoir du chlore de sodium, que le savant dit, ils passaient un excès de glutamate avec des troubles neurologiques qui ont été décrits depuis très longtemps. Donc tout ça, évidemment, n'est pas incohérent.
Est-ce que cette dégénération pourrait être causée par, justement, ce glutamate alimentaire dont on parlait ? Est-ce que, vraiment, c'est une piste que vous allez étudier ?
Bon, c'est assez loin de ce qu'on fait, je dois dire, mais bon, c'est pas impossible, mais bon, en ce moment,
En tout cas, on ne l'affirme pas aujourd'hui.
Bernard Laurent.
Oui, le glutamate, c'est assez passionnant parce que c'est à la fois un neuromédiateur très présent dans le cerveau, très présent dans les systèmes de mémoire, dans l'hippocampe, présent également dans la moelle, donc il joue un rôle dans la mémoire de la douleur, mais l'excès de glutamate que vous aurez dans un stress ou risque de provoquer effectivement une dégénérescence des neurones de l'hippocampe, point de départ de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est à la fois du bon et du mauvais glutamate. En termes de conséquences.
Bon, sauf que Magda Majeria, on a compris que vous ne nous disiez pas d'arrêter de manger de la cuisine asiatique
autant. Non, c'est pas ça le sens. Il faut y aller.
Sans excès de glutamate forcément non plus. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions à l'occasion de la parution donc de ces deux études. Merci Axel, on se retrouve demain à la Une de la Science.
À demain Mathieu.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 16 nouveaux virus géants dénichés en forêt. Des chercheurs d'Harvard, partis chasser des bactéries, ont eu la surprise de découvrir parmi leurs récoltes des virus aussi gros que leurs bactéries. Cette classe de microbes qu'on appelle aussi virus géants n'était pour l'instant connue qu'en milieu aquatique. Parmi les découvertes, on peut citer celle de l'Hyperion virus, qui mesure 0,2 microns et qui contiendrait le plus gros génome viral jamais identifié. Voyager 2 quitte le système solaire 6 ans après son aîné Voyager 1. La sonde de la NASA lancée en 1977 aurait franchi le 5 novembre dernier la limite théorique entre le système solaire et l'espace interstellaire. Selon la NASA, le principal indicateur de ce franchissement est la baisse enregistrée du vent solaire reçu par l'instrument PSL à son bord et qui est devenu négligeable aujourd'hui. Voyager 2 à 18 milliards de kilomètres de nous perd peu à peu l'influence du soleil et c'est le deuxième objet humain à sortir justement de notre système solaire. Et puis pour terminer, de drôles de gommes à mâcher préhistoriques découvertes en Suède. Ces pattes collantes, aujourd'hui durcies, étaient de toute évidence mâchonnées par les chasseurs-cueilleurs il y a 8000 ans pour en faire une colle afin de confectionner des armes ou des outils. En soumettant ces chewing-gums de goudron sec à des analyses génétiques, eh bien les chercheurs suédois ont pu découvrir qu'ils conservaient étonnamment bien l'ADN. Ils montrent également que les hommes aussi bien que les femmes participaient à la mastication préparatoire de la colle.